semble que Pierre Gillis aurait quasiment mieux sa place au XVIIIe siècle qu'aujourd'hui, parce qu'il fait partie de ces esprits éclairés et de ces gens qui avaient à la fois de la curiosité aussi bien pour les disciplines des sciences pures que pour les disciplines plus des sciences humaines et de la philosophie, et qui avait en plus une compétence qui allait d'un côté ou de l'autre. Et c'est un type d'esprit qu'on voit malheureusement de moins en moins aujourd'hui. Et donc je l'imagine presque mieux au XVIIIe qu'aujourd'hui. C'est donc un plaisir de l'accueillir pour parler de la science au XVIIIe. Je vous dirai quand même, j'imagine que presque tout le monde le connaît, mais au cas où ce ne serait pas le cas, qu'il est physicien de formation, qu'il a fait un doctorat à l'ULB avec le professeur Prigogine, qu'il est spécialiste de biophysique et de résonance magnétique moléculaire, qu'il a été professeur à l'Université de Mons et il a aussi eu beaucoup de responsabilités administratif, que par ailleurs il dirige le centre d'études philosophiques de l'Université de Mons et l'extension qui organise ses conférences, et qu'il est aussi co-éditeur des cahiers marxistes. Vous voyez, c'est vraiment un homme qui a des compétences dans de très nombreux domaine, et je lui cède tout de suite la parole pour nous parler de la science au XVIIIe.
Merci beaucoup pour cette présentation. Je veux dire, c'est la première fois que je me sens vraiment en émule du XVIIIe siècle. Peut-être que j'aurais dû mettre un bonnet phrygien et arriver sans culotte. Ça, je pense que ça pourrait quand même aller comme ça. En fait, quand Anne m'a demandé de présenter un exposé dans le cadre du cycle sur l'histoire des idées au XVIIIe siècle, et en me disant, OK, tu pourrais quand même prendre en charge, le volet scientifique, a priori, ça m'a tout de suite intéressé, mais quand même, face au mur, j'ai eu quand même une petite hésitation en me disant, mais scientifiquement, le XVIIIe siècle, c'est quand même vachement riche. Il y a beaucoup de choses là-dedans, il y a des tas de domaines différents. Alors, est-ce que je vais commencer par faire une espèce d'inventaire de tout ce que la science a amené au XVIIIe? Et puis je me suis dit, non, finalement, probablement, ce n'est pas la bonne idée, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. J'ai plutôt essayé de penser mon exposé en voyant vraiment quels sont les acquis et les découvertes du monde scientifique qui ont vraiment joué un rôle majeur dans l'évolution globale des idées. Donc, ce qui a eu des retombées, si vous voulez, en dehors de ce qu'on pourrait attendre, les applications diverses, les directes. OK, alors par rapport à ça, si vous voulez, je commence par une banalité ou un truisme en disant, le 18e, il suit le 17e. Alors, c'est quand même pas tout à fait un truisme, parce que si on pense aux ruptures les plus profondes, probablement qu'elles datent quand même largement du 17e. Alors, le 18e les approfondit, le 18e en tire toutes les conséquences, et elles se diffusent, elles prennent une importance de plus en plus grande, mais c'est vrai que quand on fait le bilan du 17e, c'est quand même pas mal, hein. Donc, bon, vous voyez, j'ai mis quelques noms comme ça, et c'est pas mon sujet, donc je vais pas vraiment développer. Mais par exemple, Kepler et Galilée, bon, pour la vision du monde, c'est pas rien, évidemment. Mais on oublie souvent, par exemple, les grands progrès qui ont été faits aussi au XVIIe pour comprendre, par exemple, les modalités de la circulation sanguine. Ça a été fait en Angleterre par Harvey. Alors, le Wenhook et son microscope, ça, on y reviendra, parce que c'est à cheval sur les deux. Donc, c'est en partie déjà aussi sur le XVIIIe. Alors, les microscopes de le Wenhook, ça a été une ouverture vers un monde qui était totalement inconnu à ce niveau-là. J'y reviendrai parce que dans la manière dont je veux présenter les choses, il y a effectivement l'idée d'essayer de sortir des ordres de grandeur qui sont ceux qui sont caractéristiques du monde immédiatement perceptible. En fait, quand je disais que j'avais voulu me focaliser sur les découvertes scientifiques qui ont bouleversé la vision du monde, c'est d'abord à cette idée-là que je pensais. Il y a des ordres de grandeur qui apparaissent comme totalement hors de portée des prédécesseurs et qui sont explorés au XVIIIe siècle. Alors, déjà au XVIIe, donc si vous voulez, en matière de physique, il y avait Stevin, qui est souvent quand même, ça, un petit peu de chauvinisme, il vient de chez nous, et c'est quand même, plus le temps passe, plus on a vraiment l'impression que c'est un des vrais précurseurs de tout ce qui est le développement de la mécanique qui a suivi, et dont je reparlerai. Alors, en Angleterre, un homme qui est tout à fait intéressant aussi, c'est Gilbert, qui a commencé vraiment à émettre certaines idées sur qu'est-ce que c'est que des magnétés, c'est les aimants. Hein, donc c'est le premier qui a commencé à dire des choses à propos des aimants. Et il avait une vision du monde qui était un peu étonnante. Il admettait l'idée que la Terre tournait sur elle-même, mais pas qu'elle était autre chose que le centre du monde. Donc, je ne me rends pas très bien compte de ce que ça veut dire. Comment on pouvait imaginer un centre, donc la Terre, centre du monde, mais animé d'un mouvement de rotation sur elle-même ? Enfin bon, ok, c'était son point de vue à lui. Et il avait associé ça à ses aimants en pensant que c'était le caractère aimanté du globe terrestre qui expliquait pourquoi il tournait sur lui-même. Ne me demandez pas de préciser comment il avait pu arriver à cette idée, parce que j'en sais vraiment rien. Alors en France, il y a déjà à ce moment-là aussi des gens tout à fait intéressants. Peiresque, qui est un élève de Galilée. Il est allé travailler à un moment donné avec Galilée et qui a été un astronome de premier plan. Fermat, mathématicien. Je continue. Alors Mersenne, qui joue un rôle tout à fait intéressant aussi. Mersenne, il n'y a pas de grandes découvertes qui sont attachées au nom de Mersenne, mais le rôle qu'il a joué, qui est loin d'être négligeable, c'est un peu un go-between. C'est un homme qui a servi d'interface entre différents scientifiques de son époque. Il avait une correspondance avec beaucoup de gens, avec Descartes notamment, et avec Kepler aussi, il en a une. Enfin bon, ok. Donc, un nom qui me paraît important à retenir aussi, c'est Robert Weil, qui est un des premiers vrais expérimentateurs. Alors, pour entrer dans le 18e, je me suis dit quand même qu'une date qui était intéressante, c'est celle qui est liée à l'activité de Leibniz. En 1700, donc vraiment pour entrer dans le 18e siècle, Leibniz fonde l'Académie des sciences de Berlin. Bon, c'est une coupure qui en vaut bien une autre. Hein. Alors, ici, je reviens sur une des premières idées que je voudrais quand même discuter, celle-là. C'est une idée de Galilée et qui va trouver une application tout à fait importante dans la suite. C'est une citation qui est ultra célèbre, qui a été reprise qui a été reprise souvent. La philosophie est écrite dans ce livre immense, perpétuellement ouvert devant nos yeux, je veux dire l'univers. Mais on ne peut le comprendre que si l'on n'apprend pas d'abord à connaître la langue et les caractères dans lesquels il est écrit. Il est écrit en langue mathématique, et ses caractères sont des triangles, des cercles et d'autres figures géométriques sans l'intermédiaire desquelles il est humainement impossible d'en comprendre un seul mot. Alors, je vais m'arrêter à cette idée parce que c'est en même temps une idée révolutionnaire pour son temps, et elle a vraiment connu beaucoup de développement. Alors, ce que j'ai envie de faire, si vous voulez, c'est, bon, fondamentalement, je ne suis pas un historien. Et donc, chaque fois, face à ce genre d'affirmation, la tentation qui me vient, c'est de la relire avec mon propre regard. C'est-à-dire, d'homme, je dirais, comme disait Anne, pas du 18e, mais plutôt du 20e, mais peut-être un petit peu du 21e siècle, est-ce que cette idée est une idée qui a été fondamentalement, qui s'est imposé et qui s'est avéré tout à fait correct. Alors d'abord, il y a une première remarque qu'on peut faire et qui est intéressante. En fait, quand Galilée parle des mathématiques, il vise la géométrie. Et donc, de ce point de vue-là, il y a tout un volet qui est le calcul, l'algèbre, le calcul infinitésimal qui a été développé après, qu'il ne connaît pas. Donc lui pense vraiment en termes de géométrie. Et on verra dans la suite qu'en effet, Newton, par exemple, fondamentalement, bien qu'il fonde l'analyse infinitésimale, en effet, résonne quand même largement dans ce contexte-là. C'est plus vrai 50 ans après Newton, ça. 50 ans après, les choses sont vraiment formalisées et on est un peu sorti du cadre strictement géométrique. Mais même sur l'idée que la science, elle s'exprime dans les maths, en fait, je dirais, c'est une idée qui a été en partie, peut-être je suis un peu iconoclaste en disant ça, c'est une idée qui, à mon avis, a plutôt été en partie infirmée que confirmée. En fait, c'est fondamentalement vrai pour la physique. La physique s'exprime complètement dans un langage mathématique et est complètement associée à l'histoire des mathématiques avec les concepts qui évoluent en parallèle. Mais est-ce qu'on peut en dire autant d'une série d'autres domaines qui, aujourd'hui, ont vraiment conquis droit de cité dans le panorama de ce qui fait les sciences? Est-ce que la géologie est vraiment une science qui s'exprime en termes de mathématiques? Moi, je dirais non. Enfin, si vous voulez, il y a une exigence de rationalité très forte à l'égard des conclusions et des théories qui sont émises en géologie, mais la géologie n'est pas une science qui s'exprime en termes mathématiques. Est-ce que la biologie s'exprime en termes mathématiques? Certains pans de la biologie, oui, on compte, si vous voulez, ou on peut éventuellement établir des équations, mais je reste convaincu que la biologie n'a pas, avec les mathématiques, un rapport qui serait comparable à celui que la physique entretient avec la mathématique. En fait, cette prédiction de Galilée, elle s'est complètement imposée en physique, et en particulier avec le 19e siècle et avec l'électromagnétisme, dans laquelle elle est même tellement confondue, les concepts mathématiques et les catégories physiques dont on parle, qu'on ne sait plus très bien faire la part des choses. Quand on pense à l'électromagnétisme, qu'est-ce qu'on étudie? On étudie fondamentalement l'évolution des champs électriques et des champs magnétiques. C'est sur ça les grandeurs clés de l'électromagnétisme. Et ça, c'est fondamentalement des grandeurs qui sont guidées par les équations de Maxwell. Donc fondamentalement, on ne peut pas, je crois, expliquer ce que c'est un champ magnétique ou un champ électrique en sortant du contexte théorique qui est celui des équations de Maxwell. Donc fondamentalement, les concepts de la physique sont des concepts qui, en effet, s'expriment comme des concepts de maths. Je pense que ça, c'est pas vrai pour la biologie, c'est pas vrai pour la géologie, et je dirais même que fondamentalement, c'est pas vrai non plus pour la chimie. Entendons-nous bien, quand je dis ça, il ne faut pas du tout entendre dans mon propos une manière de dénigrer les sciences moins mathématisées. Et vous verrez que je reviendrai sur cette idée dans ma conclusion, plutôt en montrant que ce n'est pas nécessairement du côté de la mathématisation la plus poussée qu'on arrive nécessairement aux vérités premières. Donc, je voulais discuter cette idée-là et je l'ai fait. Alors, quand même, au XVIIIe siècle, fondamentalement, à côté de cette idée de mathématisation, il y a une autre idée qui devient tout à fait cruciale et qui est, elle, la suite de la rupture avec Aristote. Alors Aristote, c'est fondamentalement le monde sublunaire et le monde supralunaire. Et donc, le monde sublunaire, c'est le monde dans lequel on vit, et fondamentalement, il ne relève pas d'une étude, alors j'allais dire scientifique, peut-être que le vocabulaire que j'utilise de ce point de vue-là est un peu anachronique, parce qu'évidemment, à l'époque des Grecs, ce n'était pas le cas. Mais, OK, nous vivons dans un monde où on meurt, on vit, il y a des accidents, il y a des formes qui sont des formes un peu inattendues, et tout ce qui est hors de notre portée, sous les cieux, c'est parfait. C'est régi par des cycles parfaitement reproductibles, il n'y a pas d'accidents, les objets sont des sphères, etc., etc. Et cette idée-là est une idée qui est fondamentalement mise en cause à partir du XVIIe et surtout à partir du XVIIIe, en disant que fondamentalement, les phénomènes qui sont rejetés hors de ce qui est vraiment la régularité des lois dans le passé, donc avant cette rupture, les phénomènes trouvent vraiment droit de cité. On étudie vraiment toute une série de choses, on observe ce qu'on faisait beaucoup moins par le passé, et donc l'objet scientifique, c'est plus seulement ne s'intéresse plus seulement à l'essence des choses. Vraiment, on essaye vraiment de comprendre comment le monde fonctionne. Donc on mesure. Et donc ça, c'est vraiment une idée qui est tout à fait nouvelle. Alors, j'avais cité Gilbert tout à l'heure, donc l'homme de des premières théories du magnétisme. Déjà chez lui, il y a une citation qui est intéressante, dans laquelle il dit « toute génération naît du mouvement, sans lequel la nature elle-même s'endormirait ». Donc ça, c'est déjà une idée, fin du 16e, début du 17e, qui est en rupture avec la tendance dominante de l'aristotélisme. Donc, quelques ruptures de ce genre-là qui sont importantes. Alors, en fait, la physique, évidemment, à l'époque, est celle qui est la plus mathématisée et qui est en avance. Le contexte, c'est celui de l'opposition entre le mécanisme, qui est plutôt personnifié par Descartes, et le dynamisme, qui sera personnifié plutôt par Newton. En fait, Descartes a une vision fondamentalement réductrice, je dirais, de l'univers, dans laquelle, essentiellement, on peut presque dire que l'univers fonctionne comme une table de billard. Il n'admet pas l'idée que la matière a des propriétés intrinsèques. Les seules propriétés que Descartes reconnaît à la matière, c'est de pouvoir faire des collisions. Mais essentiellement, il identifie la matière au volume qu'occupe un objet. Donc, la seule propriété mesurable d'un objet, c'est son étendue, son extension, comme on disait à l'époque. Aujourd'hui, je dirais, c'est la notion de volume qui est associée à ça. Et fondamentalement, les objets sont pensés comme des objets durs et l'évolution du monde est due à des collisions. Et en poussant ça à l'extrême, si vous voulez, on va jusqu'à l'idée de ces animaux-machines dans lesquels on peut avoir, en effet, où ils tentent une représentation même du vivant qui relève de cette idée d'un mécanisme pur. Donc, fondamentalement, si vous voulez, l'idée qu'il n'admet pas, c'est l'idée qu'il y a des propriétés de la matière qui sont autres que simplement le fait d'être ou de ne pas être et d'avoir une extension dans un volume donné. Alors, de ce point de vue-là, Newton, qui est celui qu'on associe d'habitude au dynamisme, a une vision. Donc, je me suis amusé à trouver quelques images quand même parce que je trouve toujours amusant d'avoir un peu la tête de ces grands hommes. Donc ça, c'est une image de Newton quand il était relativement jeune. En fait, à l'époque où il a vraiment été productif, parce que il a eu une production extraordinaire, il a joué un rôle majeur, mais surtout concentré sur la première partie de sa vie. Après, il a été grand responsable de la monnaie anglaise et il s'est beaucoup moins intéressé aux théories physiques. Et donc Newton, au départ, si vous voulez, a probablement une vision plus générale et s'appuie notamment sur un inventaire assez différencié des propriétés de la matière. Donc il s'intéresse à l'optique, il connaît l'existence, on ne les maîtrise pas, mais il connaît l'existence de forces magnétiques et de forces électriques. Il parle parfois de la force centrifuge, ce qui lui paraît aussi un peu bizarre. Et puis fondamentalement, évidemment, son gros apport, c'est de travailler sur la gravité. Alors par rapport à ça, au départ, autant que Galilée ou autant que Descartes, il est vraiment très 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 réticent à l'idée qu'une force à distance puisse exister. Et bon, quand on dit évidemment que la gravitation est une force qui s'exerce entre la Terre et le Soleil, ou entre le Soleil et la Terre, ben c'est évidemment une force à distance. Il n'y a pas d'autre manière, en tout cas, de la représenter. Ça le gêne très fort, mais il se convainc lui-même, et je vais tout de suite vous montrer, en espérant ne pas être trop long sur ce sujet, mais tout de suite vous montrer comment il a pu s'en convaincre, parce que je trouve que les modes de raisonnement sont quand même aussi assez instructifs pour nous. Donc, il arrive à se convaincre qu'il en a vraiment besoin. Et donc, par exemple, il écrit « Je n'examine point ici quelle peut être la cause de ces attractions. » Donc, il parle de l'attraction qu'il associe au mouvement des planètes autour du Soleil en inventant la notion de gravitation universelle. « Je n'examine point ici quelle peut être la cause de ces attractions. Je n'emploie ici ce mot d'attraction que pour signifier en général une force quelconque par laquelle les corps tendent réciproquement les uns vers les autres, quelle qu'en soit la cause. » Donc, il dit bien, si vous voulez, « quelle qu'en soit la cause. » Et c'est notamment par rapport à cette citation qu'on peut faire appel à aussi une formule qui est un grand classique de Newton, en latin, « hypothèses non fingo ». J'ai déjà vu des traductions assez différentes de ce non fingo pour les hypothèses. Je crois que la manière la plus simple de le dire, c'est « je ne fais pas semblant de poser des hypothèses ». Quelque chose de ce goût-là, pour le dire de manière compréhensible. Je ne fais pas semblant de poser des hypothèses. Mais il est bien obligé d'admettre que cette interaction à distance a vraiment une réalité. Alors, on dit aujourd'hui, quand on prend vraiment tout le trajet de Newton, qui était quand même un personnage un peu compliqué, hein, donc mathématicien et physicien de génie, par ailleurs alchimiste, et donc il a passé vraiment une bonne partie de sa vie à semi-clandestinement, pas trop, mais quand même, à travailler sur l'alchimie. Et puis, il a été grand responsable de la production de monnaie. Donc, où là, il était, paraît-il, assez redoutable pour les faux monnayeurs. Donc, c'était vraiment un personnage qui était un personnage multiple. Et en même temps, il était profondément religieux et attaché à une des sectes qui était une secte pas tout à fait bien vue, qui était les plus puritains des plus puritains parmi les protestants. Et donc, on dit, si vous voulez, les historiens des sciences disent aujourd'hui, que probablement, dans le chef de Newton, dans l'idée de dire, il reste, ok, moi j'ai besoin de cette interaction à distance, je constate qu'elle existe, pour le reste, ne me demandez pas d'où elle vient, c'était une manière, évidemment, de laisser une grande place à une forme d'intervention divine, en disant, moi je ne peux pas vous le dire, il y a un responsable plus haut placé que moi qui peut probablement vous donner la réponse à cette question d'où elle vient. Alors, en fait, ce que je me suis amusé à faire ici, c'est un petit calcul qui est, j'espère ne pas vous troubler avec ce petit calcul, parce qu'il est vraiment élémentaire. En fait, comment est-ce que Newton a pu se convaincre que la force d'attraction était une force qui était à distance et qui diminuait au fur et à mesure que les objets en train d'interagir s'éloigner l'un de l'autre, avec l'idée que la manière dont ça diminue est proportionnelle à l'inverse du carré de la distance. Eh bien, il s'est posé la question, comment la Lune tombe-t-elle ? Donc, si vous voulez, c'est l'analogie entre la chute d'une pomme et celle de la Lune, qui est si souvent citée à propos de l'œuvre de Newton, qui aurait compris, si vous voulez, en voyant, dit-on, il paraît que c'est aussi une légende qu'il aurait lui-même inventée pour illustrer cette histoire à la fin de sa vie, mais il aurait, si vous voulez, eu la révélation de l'universalité de l'attraction universelle en voyant la pomme tomber de l'arbre et en se disant, mais fondamentalement, la pomme tombe parce qu'elle est attirée par la Terre. Et, corollaire, la Lune aussi. Alors, première idée, pourquoi la Lune ne tombe pas alors que la pomme tombe ? Mais parce qu'elle est en train de tourner. Donc ça, c'est une idée assez simple. Si je prends un objet et que je le laisse tomber comme ça, il tombe tout droit. OK. Si je le lance un tout petit peu par là, il ne lance pas tout droit. Maintenant, imaginez que je le lance tellement fort qu'en fait, il aille suffisamment vite pour que, au moment où il tombe, on ne puisse plus ignorer la courbure de la Terre. Donc évidemment, il va tomber. Mais en même temps, le sol de la Terre lui-même étant courbé, il reste à peu près à distance constante. Donc c'est une manière simple de se dire, OK, la Lune tombe, mais en tombant, de fait, ce qu'elle fait, c'est tourner. Alors, Newton fait le calcul suivant. Ce que j'ai essayé de montrer là, le petit arc de cercle qui est au-dessus, c'est la trajectoire de la Lune. La Terre est en haut et la Lune va de B en C. Vous voyez quelque chose ou bien mon truc est trop petit ? On voit. Donc la Lune va de B en C. OK. Alors, en C, on va prendre un intervalle de temps qui est très court, une seconde. Alors, il y a facilement moyen de voir qu'il y a au moins deux triangles semblables dans ce dessin. Le triangle que j'ai appelé BOM, donc M, c'est le point d'intersection ici, entre les deux lignes rouges, BOM, et BAC, ce sont deux triangles rectangles et ils ont un angle en commun. Donc ils ont fatalement la même forme, c'est ce qu'on appelle des triangles semblables. OK. Alors s'ils sont semblables, s'ils ont la même forme, il y a un rapport constant entre les côtés. Alors j'écris le rapport entre le petit côté de l'angle droit, qui est AB d'un côté et de l'autre côté BM, et l'hypoténuse. OK. Donc je vous le fais parce que c'est vraiment, si vous voulez, dans ce modèle-là que Newton raisonne. Donc, on a l'égalité là, AB sur BC égale BM sur OB. Alors, par ailleurs, on voit bien que BM, c'est la moitié de la distance parcourue de B en C, Et si on fait le bilan, on a à peu près tout ce qu'il faut là-dedans. En fait, comment est-ce que je peux déterminer ce que c'est BC ? Bien, en reprenant le rythme auquel la Lune se déplace et en regardant l'espace qu'elle parcourt en une seconde. Ça, c'est pas trop compliqué, puisque je sais qu'elle a besoin de 27 jours pour faire un tour complet, donc je peux calculer de combien elle se déplace en une seconde. Oui, je peux le faire, pas depuis longtemps à l'époque de Newton, parce que pour pouvoir le faire, il faut évidemment savoir à quelle distance la Lune est de la Terre. Ok, à l'époque, c'est une mesure qui a été réalisée. Mais donc, il faut se dire que précédemment, ça ne l'était pas. Donc, il fait ce calcul, et il trouve, si vous voulez, finalement, que la distance dont la Lune tombe, qui est notée par AB, donc ça, il faut comprendre sur le petit dessin, la Lune part de B, elle va jusqu'en C, de combien est-elle tombée ? Ben, de ce que j'obtiens en projetant C sur A, donc en dressant une perpendiculaire. Donc, je calcule BA avec mon petit calcul de triangle semblable, et je trouve finalement que ça vaut 1,39 mm. 1,39 mm. Ok, donc calcul pas trop compliqué à faire, moyennant la distance de la Terre à la Lune. Et alors on achève le raisonnement en disant, oui, et la pomme de combien elle tombe ? Ah, en une seconde, ça c'est le fameux petit g, en une seconde, la pomme tombe de environ 5 mètres, 4,9 mètres. Alors on fait le rapport entre les deux. J'ai compté en millimètres, 4905 divisé par 1,39. Ça fait 3528, c'est pile poil le rapport au carré du rayon de la Terre et de la distance Terre-Lune. Donc si on fait le calcul, je l'ai fait avec les données, mais vous voyez bien que mon 384 000, qui est en kilomètres la distance du centre de la Terre à la Lune, divisé par les 6380 qui est la dimension du rayon de la Terre, donc il repère ça par le centre d'attraction qui est au centre de la Terre. La pomme, la distance à laquelle elle se trouve, c'est le rayon terrestre, c'est 6380. Ok, on fait le calcul et on trouve 3623. Donc vous voyez, 3623, 3528, ça c'est le calcul que moi j'ai fait, il s'est convaincu que fondamentalement c'était la même chose. Donc c'est comme ça qu'il arrive à se convaincre que la loi de gravitation est une loi qui est sérieuse, qu'on peut expliquer la trajectoire de la Lune de cette manière-là, et en fait que simultanément, on trouve en effet que l'effet en termes de chute est 3600 fois plus important sur la pomme que sur la Lune, ce qui correspond au carré des distances, le rapport des distances étant à peu près de l'ordre de 60. Donc, quand je disais tout à l'heure que fondamentalement ce que Galilée écrit, à savoir on fait de la géométrie, on dessine des figures, quand on prend les œuvres de Newton, c'est effectivement, donc moi j'ai simplifié considérablement, mais c'est le mode de raisonnement qu'on peut retrouver. Alors quand même, un mot en passant, je retourne en arrière, vous voyez qu'il y a un élément qui est un élément un tout petit peu, où on peut se poser des questions sur mon petit dessin. Moi, j'ai raisonné sur le triangle. Ce que j'ai appelé le point M, c'est ceci. Hein? Donc, c'est, en principe, il est ici, à l'intersection des deux droites en rouge. Alors que la Lune, en réalité, ne passe pas par là. La Lune fait son trajet selon une orbite circulaire. Ok, donc ce n'est pas exact. Enfin, ce n'est pas tout à fait correct. Alors, première idée, ce qu'on peut évidemment comprendre, c'est que plus l'intervalle est court, plus l'arc de cercle va s'aplatir sur la droite que j'ai tassée et plus ça se rapproche. Et en fait, Newton se pose la question, mais vraiment, comment peut-on passer de la trajectoire circulaire à la trajectoire qui est réduite à une droite ? Et si vous voulez, il y a tout le problème du passage à la limite qui est traité là. Eh bien, j'y vais très brutalement et très à la grosse louche aussi, mais c'est fondamentalement, pour répondre de manière rigoureuse à cette question, qu'il invente le calcul intégral et différentiel, qu'il invente l'analyse infinitésimale. Donc, le petit calcul que moi je vous ai fait ici avec le triangle rectangle, ça c'est évidemment un calcul que, je dirais, les élèves de probablement quatrième année dans le secondaire peuvent faire. Par contre, comprendre comment on peut traiter l'aplatissement de la courbe vers la droite, ça c'est effectivement déjà des maths beaucoup plus compliquées, et ça c'est vraiment, si vous voulez, je le dis de manière simple, mais c'est probablement l'apport principal de Newton qui a pu régler ça et montrer qu'on pouvait en effet passer de l'un à l'autre, mais au prix évidemment de l'étude de comment passe-t-on à la limite et ce genre de choses. Et c'est ça qui a débouché donc sur ce que lui appelait le calcul des fluxions, et que Leibniz invente en même temps. Ok, donc première chose que je voulais vous montrer, cette opposition entre mécanisme et dynamisme, avec la manière dont on peut imaginer que Newton avait vraiment trouvé l'idée que l'interaction gravitationnelle dépendait du carré de la distance. Donc, si on s'engage même résolument maintenant dans l'histoire du 18e, on voit que il y a un vrai essor de la physique expérimentale. Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en disant on s'intéresse aux phénomènes, on les mesure, enfin, on les observe d'abord et on les mesure ensuite. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait différent. Alors, il y a évidemment en même temps le triomphe de Newton. Ça vaut quand même la peine de le dire. En fait, Newton lui-même et probablement pas mal de ses suiveurs étaient convaincus que la gravitation universelle, c'était l'alpha et l'oméga du fonctionnement du monde. Donc, si vous voulez, depuis, on a quand même eu l'occasion d'enrichir les capacités, les propriétés de la matière. Et notamment, par exemple, peut-être qu'un jour, on réunifiera les physiciens qui font les théories des cordes, c'est ça qu'ils essayent de faire, mais jusqu'à nouvel ordre, ce n'est pas fait. Mais donc, dans la vision de la physique qui est celle qui est dominante aujourd'hui, les propriétés électriques et magnétiques n'ont rien à voir avec la gravitation. C'est une autre propriété de la matière qui donne lieu à des interactions qui se manifestent de manière différente. Mais donc, Newton avait vraiment cru qu'avec sa gravitation, il pouvait tout expliquer, y compris par exemple l'optique, qui a priori, aujourd'hui, ne relève pas du même genre d'explication. Alors, c'est aussi le moment, si vous voulez, où on commence vraiment, quand je dis on mesure et on observe, c'est aussi le moment où on commence à penser à des applications. C'est le début, hein? Mais donc, de nouveau, le 18e siècle est un siècle charnière par rapport à ça. La vraie révolution industrielle, l'application de la révolution industrielle, et donc l'incorporation d'une série de données scientifiques dans le monde de la production, ça c'est bien plus le 19e que le 18e. Mais ça commence au 18e, et c'est au 18e qu'on commence vraiment à faire ça. Alors, en même temps, on commence aussi, et ça, c'est plutôt des idées qui préfigurent ce qui viendra avec la Révolution française, on valorise le mérite. Et donc, on commence, si vous voulez, à s'écarter de l'idée que les grands hommes sont nécessairement les aristocrates, et on commence, si vous voulez, à travers une certaine manière d'aborder l'éducation, à valoriser les capacités individuelles des gens qui sont en effet capables d'intervenir à ce niveau-là. Alors, en fait, ça ne passe pas encore par un système, enfin, certainement pas au 18e, qui est formalisé. En réalité, il y a peu d'écoles, il y a peu d'universités, on commence à fonder les académies, mais fondamentalement, ça marche un peu comme un système de cooptation. Et là, par exemple, à l'appui de ça, on peut dire, vous avez des grandes dynasties. Par exemple, la famille de Bernoulli. Alors, moi, comme physicien, je connaissais le théorème de Bernoulli, qui est, j'ai appris depuis qu'en fait, le théorème de Bernoulli, c'est le troisième du nom, c'est Daniel. Il y a les prédécesseurs, le premier, c'est... Donc, c'est une famille qui est originaire de Bâle. Le premier, c'est Jacques, qui a introduit les premiers éléments de calcul des variations. Donc, ça, c'est vraiment encore 17e et début du 18e. Son frère... Alors, ils ont eu des conflits entre eux, même, sur des problèmes de paternité, d'invention, de découverte mathématique. Et puis, le troisième, Daniel, qui est le fils de Jean. Donc, vraiment, clairement, c'est chaque fois en famille, si vous voulez, qu'on éduque les enfants. Et c'est en famille qu'on leur donne une éducation scientifique. Autre dynastie importante aussi, les Cassini. Ça, c'est plutôt des astronomes qui ont travaillé à Paris. Jean-Dominique, 1625-1712, donc c'est à cheval sur le 17e et le 18e. Et alors Jacques, son fils, sur le rôle de qui on reviendra un tout petit peu. Alors, en maths, là, on est un peu en avance. Il commence à y avoir vraiment, surtout dans les universités britanniques, des pros, des vrais pros. Les académies se développent. Et alors, on a affaire, si vous voulez aussi, à une forme de nomadisme qui, somme toute, existe encore de nos jours. De nos jours, on parle plutôt de nomadisme, on parle de brain drain. Mais je pense que c'est quand même aussi des choses qui marchent un peu, enfin, beaucoup moins massivement. Hein. Bien entendu, au 18e, c'est des individus. Mais par exemple, Euler, qui est un savant universel qui a fait des tas de choses, eh bien, il a travaillé d'abord en Allemagne, et puis il est allé à Saint-Pétersbourg, où il a été appelé finalement par Catherine II, et puis il est encore revenu en Allemagne. Donc vraiment, il bouge entre les deux. Parmi les autres, donc Euler est probablement le plus grand exemple. J'ai pas d'autres noms qui me viennent. Oui, Leibniz aussi a pas mal voyagé. Donc il y a une série de personnages comme ça qui ont été dans différentes capitales et qui ont bien entendu permis la diffusion des idées. Ils ont joué un rôle majeur à ce niveau-là. Donc Euler s'intéresse à la musique, à l'optique, à l'architecture des bateaux. Donc, de ce point de vue-là, on est évidemment assez loin de la conception philosophique traditionnelle. On s'intéresse, Galilée avait commencé à faire ça aussi, on s'intéresse vraiment à des problèmes qui éventuellement ont une composante pratique importante. D'Alembert fait de la musique, fait de la mécanique appliquée. Donc, quand je dis fait de la musique, c'est pas un compositeur de musique, il fait de la théorie de la musique. Donc, c'est pas Mozart ou Haydn, hein. Mais, donc il fait de la théorie de la musique. Bon, il participe, comme vous savez, évidemment, à l'écriture de l'encyclopédie. Laplace. Alors, Laplace est connu avant tout comme un grand mathématicien. OK, mais enfin, il a quand même aussi pas mal développé le volet mécanique de la physique. Et alors, surtout, ce que moi j'ai trouvé assez étonnant, c'est j'ai appris ça en écoutant Michel Bougard il y a 10 jours, en fait, Laplace est co-signataire de la déclaration, ou plutôt de la contribution de Lavoisier devant l'Académie des sciences de Paris, dans laquelle il décrit la première décomposition de l'eau en oxygène-hydrogène. Donc, Lavoisier, une des grandes découvertes qu'on reconnaît à Lavoisier, c'est d'avoir compris le caractère moléculaire, si vous voulez. Donc l'eau, c'est H2O, ok, il est arrivé à séparer l'hydrogène et l'oxygène. Eh bien, Laplace est co-signataire du papier dans lequel on explique que l'eau, c'est qu'on peut décomposer l'eau en hydrogène et en oxygène. Il n'est pas le seul, d'ailleurs. Hein. Il y a Laplace, il y a Monge, il y a Legendre, il y a Meunier. Meunier, je connais moins, mais Monge et Legendre sont aussi deux mathématiciens, plutôt à ce moment-là à cheval sur la fin du siècle et qui ont continué à travailler au 19e. OK, donc voilà. Donc il y a, de ce point de vue-là, effectivement, beaucoup de choses à dire. Alors, un personnage sur lequel je me suis un tout petit peu arrêté quand même aussi, c'est Lagrange. Alors, Lagrange, il est né à Turin, et il a commencé à travailler comme prof dans une école d'artillerie, et puis il est allé à Berlin, où il a succédé à Euler. En 66, il succède à Euler, et puis à partir de 1787, il revient à Paris. Alors, il a participé, il était plutôt un sympathisant de la Révolution française, mais comme beaucoup d'hommes de sa génération, il a suivi l'évolution et il est devenu un notable du régime bonapartiste. Donc, Napoléon en a fait un sénateur et un père de l'Empire, et il a même encore pu s'en tirer après. Il n'a pas été renvoyé, probablement parce que ses compétences de mathématicien étaient suffisantes. Même à la Restauration, il n'a pas été renvoyé à ses chères études. Je crois qu'il était suffisamment installé à ce moment-là pour être resté dans le coup. Alors, en fait, j'ai repris la citation qui est là parce que je trouve qu'elle marque le coup par rapport à la précédente qui était celle de Galilée. Je trouve, on est quand même en 1788, donc c'est environ, si je ne me trompe pas, 150 ans après Galilée. Oui, c'est ça, c'est 150 ans après Galilée. Et dans son introduction, il écrit « On ne trouvera point de figure dans cet ouvrage. Les méthodes que j'y expose ne demandent ni construction, ni raisonnement géométrique ou mécanique, mais seulement des opérations algébriques assujetties à une marche régulière et uniforme. Ceux qui aiment l'analyse verront avec plaisir la mécanique en devenir une nouvelle branche et me seront gré d'en avoir étendu le domaine. » Donc je trouve vraiment ce que ceci souligne, c'est le basculement complet de la tendance dominante en maths entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. En fait, c'est Descartes qui a largement inauguré cette tendance en introduisant, si vous voulez, le calcul analytique. Mais c'était les balbutiements. 150 ans plus tard, pratiquement, on est dans une situation où le processus est abouti et où, en effet, si vous voulez, les mathématiques ont pris une forme dans laquelle vous verriez, enfin, en tout cas, chez Lagrange, en tout cas, vous ne verrez plus de petits dessins, de petits triangles et des raisonnements qui sont basés sur le genre de choses que je vous ai proposées tout à l'heure. Alors, le principe de moindre action, je vais y revenir parce que je trouve qu'il soulève quand même pas mal de questions. C'est ma deuxième petite tentative de sortir du cadre strictement historique. Le principe de moindre action, c'est une manière de poser les problèmes de la physique qui, je vous le dis tout de suite, est devenue complètement dominante aujourd'hui dans la physique moderne. Donc c'est vraiment un principe qui a une importance majeure. Et il a été généralisé. Mais au départ, la première formulation qui correspond à cette idée-là, c'est une formulation qui est due à Fermat, et qui est le principe de moindre temps. Alors, ça pose des problèmes philosophiques que je trouve tout à fait amusants. Alors, l'idée, c'est qu'est-ce qu'on analyse avec ce genre de problème ? Par exemple, la réfraction d'un rayon lumineux qui arrive dans de l'eau. Alors, sur mon petit dessin, l'eau, elle est du côté de N, et l'air, il est du côté de S, donc l'air au-dessus, l'eau en dessous, et je suppose que ça sera un mystère et une surprise pour personne de vous rappeler que quand un rayon lumineux tombe sur l'eau, il est dévié. Ok, il subit une réfraction. Ok, on essaye de comprendre comment ça se passe. Et la formulation de Fermat, qui est une formulation tout à fait intéressante, elle revient à dire, ok, si je regarde ce qui se passe quand le rayon lumineux va de S en N, c'est mes deux étoiles sur mon dessin, le trajet suivi est celui qui prend le moins de temps. Alors, on peut donner une version très imagée de cette idée. Et c'est ce qu'on fait souvent, si vous voulez. Ça, c'est mes réminiscences de prof de première candy. En fait, imaginez que en N, c'est pour ça que j'ai mis N, c'est dans l'eau, et c'est quelqu'un qui est en train de se noyer. Et en S, vous avez le sauveteur qui est sur la plage. Question, il entend le noyé qui est en train d'appeler au secours, quel trajet doit-il suivre pour le sauver ? Ben, la réponse est évidente. S'il veut sauver le noyé, il faut qu'il aille le plus vite possible. Quel trajet doit-il faire, sachant évidemment qu'il court plus vite qu'il ne nage ? Donc, bien entendu, pour aller juste tant qu'il est au-dessus, il est sur la plage, en dessous, il est dans l'eau. Mais il court plus vite qu'il ne nage. Et donc, comment doit-il concocter son trajet, par où doit-il passer exactement pour arriver le plus vite possible ? Eh bien, la réponse de Fermat, c'est les rayons lumineux, c'est ça qu'ils font. Quand ils sont réfractés, si vous voulez, l'idée c'est le rayon lumineux ne va pas à la même vitesse dans l'eau que dans l'air, et le temps mis pour aller de l'un à l'autre est le temps vraiment minimal. Ok, et ça marche parfaitement. Et de fait, si vous voulez, la mécanique de Lagrange est une mécanique dans laquelle on développe un principe qui est du même ordre, où c'est beaucoup plus compliqué que le temps. La grandeur qui est mise en évidence s'appelle l'action, et on exprime un principe pour les mouvements réels des objets soumis à des interactions qui minimise l'action. Ok. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que ça a donné, si vous voulez, des tas de discussions qui sont quand même assez perturbantes. Quand on y réfléchit bien. Avec mon sauveteur et mon noyé, j'ai évidemment aucun problème. Je veux dire, je comprends parfaitement ce qui se passe. Le noyé, il est là. Moi, comme sauveteur, je suis ici et je sais où je veux aller. Mais c'est évidemment pas comme ça qu'un rayon lumineux fonctionne. Le rayon lumineux, éventuellement en S, il est émis vers A. Et puis, il se passe quelque chose quand il arrive à l'interface. Et donc, évidemment, en se disant « il se passe quelque chose à l'interface et puis il est dévié », traiter ça en disant « tout se passe comme si le rayon lumineux savait, entre guillemets, qu'il allait de S à N », ça pose évidemment une drôle de question. Et notamment Maupertuis, qui est un autre mathématicien du 18e, refusait ce principe en disant « ça réintroduit en fin de compte dans le raisonnement physique qui était jusqu'à présent arrivé à s'en débarrasser, l'idée de la cause finale ». En fait, si vous voulez, tout est inscrit pour dire qu'on sait qu'on va jusqu'à ce côté-là. Donc il y a des discussions intéressantes. En fait, aujourd'hui, si vous voulez, le problème est à peu près dépassé parce qu'on s'est rendu compte qu'en fin de compte, on peut faire le raisonnement sur tout le trajet, mais on peut aussi le décomposer dans le même raisonnement appliqué à des intervalles infiniment petits. Et donc, finalement, petit morceau par petit morceau, on n'est pas obligé de faire appel à l'idée que on doit raisonner sur le raisonnement, sur le trajet global. Mais donc je vous dis, hein, ça c'est Fermat. Donc c'est au XVIIe siècle que ce principe de moindre temps a été avancé. Alors en optique aussi, Newton joue les premiers rôles, mais là il se plante. Et il se plante, si vous voulez, il se plante parce qu'il est convaincu que la lumière est corpusculaire. Avec, je dirais quand même, je me suis souvent demandé, c'est drôle parce qu'il y avait quand même déjà probablement à l'époque pas mal de raisons d'imaginer que le modèle corpusculaire pour la lumière souffrait d'un certain nombre de faiblesses et de faiblesses même relativement importantes. En fait, probablement qu'un des points qui a joué, c'est, il connaissait évidemment les ondes. Mais les ondes qu'il connaissait étaient essentiellement les ondes, je dirais, à la surface de l'eau, les vagues et des choses de ce genre-là. Et donc, si vous regardez la manière dont une vague se propage, à notre échelle, elle est extrêmement influencée par tous les obstacles qu'elle rencontre. S'il y a un rocher, un endroit, elle se déforme. Et en fait, la même chose se produit avec la lumière. C'est ce qui donne notamment tous les phénomènes de diffraction. Mais le point clé qui fait que probablement, à l'époque de Newton, ça c'était très difficile à percevoir, c'est simplement, on va y revenir, un problème d'ordre de grandeur. Quand je dis que les vagues se déforment, c'est parce que la longueur d'onde des vagues, si vous voulez, elle est de l'ordre de quelques mètres. Et donc toutes les modifications qui sont autour de la longueur d'onde, on les observe immédiatement. Avec la lumière, en première approximation, on peut considérer que ça va en ligne droite, et les phénomènes qui sont comparables à ce qui se produit avec la déformation des ondes sont des phénomènes qui se produisent à une échelle qui est de l'ordre du micromètre ou de plus petite que le micromètre. Et donc, en tout cas, quand on essaye de comprendre ce qui se passe, on ne voit probablement pas ces phénomènes et on peut parfaitement comprendre qu'ils aient échappé aux expérimentateurs. Mais donc le travail d'optique de Newton reste quand même tout à fait important, à ceci près que, dans son modèle, il expliquait cette réfraction en disant, fondamentalement, pourquoi la lumière est-elle déviée vers le bas ? Parce qu'elle est attirée. Il pensait à de la gravitation. Et évidemment, dans son esprit, l'eau étant plus dense que l'air, attire davantage. Donc exerce une attraction plus grande au moment où on arrive à l'interface que celle qui est exercée par l'air. Alors ça donne en même temps une déviation et une accélération. Donc lui était convaincu que la lumière allait plus vite dans l'eau que dans l'air. Et ça, il aura fallu attendre le 19e pour que vraiment ça soit tranché et qu'on comprenne que c'est l'inverse, qu'en réalité c'est dans le vide que la lumière va la plus vite. Tout récemment, vous avez sans doute entendu dire qu'on dit, tiens, il y a les neutrinos aussi, mais je vais pas entrer dans cette discussion-là pour le moment. Ok, donc c'est Young et Fresnel, Fresnel au 19e, Young à cheval sur 18e, 19e, qui ont réglé ce problème. Alors, je passe vite en revue ici. Je dirais, sur la chaleur, il y a aussi des discussions tout à fait intéressantes qui tiennent à... Ok, Lavoisier a liquidé le concept de phlogistique au profit de son approche en termes de réactions chimiques, et notamment... Donc le phlogistique, c'est le feu, hein. Donc, auquel on attribuait vraiment une nature, c'était un fluide, on ne savait pas trop ce que c'était, mais ok. Et pour la chaleur, il y avait la même idée, c'est un fluide. Alors, il y a eu différentes positions qui ont été avancées à propos du fluide qui s'appelait le calorique, qui était censé être le fluide qui incarnait la chaleur. Alors, ça va depuis, si vous voulez... certains scientifiques qui pensent que c'est vraiment une matière pondérable, donc si vous voulez, il y a des petites particules de chaleur qui se baladent dans la matière, ça n'a pas tenu le coup longtemps. Lavoisier, lui, garde l'idée de fluide calorique, mais il en fait un fluide impondérable et immatériel. Donc, de ce point de vue-là, il y a eu des discussions tout à fait intéressantes. Ce que moi, je crois important à souligner, c'est qu'en matière de théorie de la chaleur, c'est probablement, de toutes les théories physiques, celle qui est le plus étroitement dépendante des progrès, qui ont été faits en matière vraiment de mise au point d'appareils de mesure. C'est extraordinaire, si vous voulez, de voir à quel point les progrès de ce qu'on appellera la thermodynamique sont conditionnés par la capacité à fabriquer des thermomètres de plus en plus précis et de plus en plus reproductibles. Donc, au départ, si vous voulez, on philosophe un peu dans l'abstrait, et puis on construit des thermomètres de plus en plus précis, et finalement, on monte plein pied sur un échelon, on fait un nouveau thermomètre, on monte le deuxième pied, et on progresse de cette manière-là pour arriver effectivement aux théories qui, de nouveau, ne sont plus celles du 18e, mais plutôt du 19e. Alors, deux mots en passant, je dirais rien de plus. Ceux qui ont entendu Michel Bougard, probablement, sur la chimie, il y a 8 ou 10 jours, en ont appris... Beaucoup, je crois, sur la manière dont la chimie s'est développée au XVIIIe. J'en profite pour m'épargner ce passage-là. Et dans le même esprit, à propos de l'électricité, où il y a aussi vraiment, les balbutiements au XVIIIe, la vraie fondation de la théorie de l'électricité et du magnétisme, c'est le XIXe, c'est pas le XVIIIe. Mais il y a vraiment là, si vous voulez, notamment dans les cabinets de curiosité, des expériences qui sont faites dans tous les sens, avec quand même, je trouve, une personnalité qui mérite, dont le rôle mérite d'être revalorisé, c'est Benjamin Franklin. Benjamin Franklin est quand même la personne qui a été le premier à imaginer l'électricité positive et négative. Alors, quand je dis positive et négative, il faut prendre ça à la lettre. Je veux dire, au XVIIIe siècle, on s'était rendu compte qu'il y avait des répulsions entre deux types de fluides qu'on appelait vitreux ou résineux. Enfin bon, ok. Donc on savait qu'on pouvait soit provoquer des répulsions, soit des attractions entre des objets frottés différemment, de manière à les charger électriquement. Mais la plupart des autres expérimentateurs qui travaillaient sur l'électricité avaient pensé ça comme des fluides différents. Donc il y avait ce qu'on appellerait aujourd'hui l'électricité positive et l'électricité négative, qui portaient des noms autres, et ils avaient pensé ça comme des choses différentes. Benjamin Franklin est le premier qui pense l'électricité comme une seule propriété, et si vous voulez, en se disant, ok, lui ne savait pas évidemment qu'il pouvait y avoir des charges positives ou négatives, mais avec l'idée que si vous enlevez des charges négatives, le corps auquel vous avez retiré ces charges négatives, il est en déficit de charges négatives et donc il est chargé positivement. Donc l'idée, si vous voulez, que les charges plus et les charges moins puissent vraiment apparaître, non pas parce qu'on apporte cette électricité positive ou cette électricité négative, mais bien simple, par échange. Donc en disant, si j'enlève des charges négatives, alors ce qui reste est chargé positivement et vice-versa, cette idée qui est une idée cruciale et centrale pour la construction de la théorie de l'électricité, cette idée-là, ça c'est Benjamin Franklin. Et je trouve que ça valait quand même la peine de le rappeler aussi. Alors, oui, je reste à peu près dans mes délais, ça va. Je vous ai dit, je voulais quand même travailler sur quelques idées qui sont des idées qui m'apparaissent comme cruciales. Alors, j'ai été attaché à l'idée que, fondamentalement, il me semble que si je dois faire le bilan, c'est les ordres de grandeur qui ont surtout été révolutionnés. Alors, la distance, sur les distances. Donc, si vous voulez, quand je dis les ordres de grandeur, je dis il y a une série de domaines dans lesquels la perception qu'on a de l'univers explose. Et ça, c'est largement le cas au XVIIIe siècle. Alors, elle explose en dimension, mais elle explose aussi en âge, on va le voir après. Donc, si vous voulez, aussi bien les dimensions dont on parle que l'âge de la Terre ou que l'âge de l'univers sont vraiment des notions qui ont complètement évolué à ce moment-là. Alors, j'ai commencé à faire un petit inventaire de l'évaluation des distances. Une distance qui joue un rôle clé dans notre perception du monde, évidemment après on a été largement au-delà, mais c'est la distance Terre-Soleil. Alors, la première vieille démonstration, la première vieille estimation, elle est due à Aristarque. Alors là, mon petit schéma peut-être permet de comprendre, mais on voit à peu près bien ce qui se passe, si vous voulez. Évidemment, à l'époque d'Aristarque, on a des visions qui sont des visions, précisément, on n'a pas une image du monde avec la dimension des objets, pas du tout. Mais donc, ce qui est dessiné à gauche, c'est la Terre, et le petit point à droite, c'est le Soleil. Alors, Aristarque se dit, quand je vois la pleine Lune, Donc la Terre est à gauche et c'est la Lune qui tourne autour de la Terre. Quand je vois la demi-Lune, ça veut dire qu'elle est éclairée par le côté. D'accord ? Donc, hein, une demi-Lune, il y a une moitié qui est dans l'ombre et une moitié qui est éclairée par le Soleil. Alors, il fait le dessin qui est là et il se dit, en fait, pour qu'elle soit éclairée à moitié, il faut qu'on ait un triangle rectangle du genre que celui que je dessine. Donc, elle, qui est la Lune, n'est pas exactement à la perpendiculaire de la distance qui fait Terre-Soleil. Donc la distance Terre-Soleil, c'est celle qui est indiquée ici comme horizontale, et vous voyez que pour être éclairé à moitié, il faut que ce soit la Lune qui soit perpendiculaire au rayon du Soleil, donc on a un triangle rectangle dans cette direction-là. D'où l'idée que, donc vous voyez que la Lune n'est pas exactement au milieu du trajet entre la nouvelle Lune et la pleine Lune. L'écart qui est observable et est mesurable est attribué, si vous voulez, à l'effet de parallaxe, en quelque sorte, hein, à l'effet du fait que c'est positionné de biais. Et Aristarque se sert de cet écart pour arriver à faire une estimation. Alors quand même, ce n'est pas ridicule, hein, il arrive quand même à une distance qui est déjà très grande, qui est 6 720 000 km, ramenée dans des unités d'aujourd'hui, évidemment. Alors, j'ai listé, pour vous montrer, quand je disais l'univers gonfle et augmente, au début, ce n'est pas trop rapide. Ptolémée, je vous dis pas comment il fait, mais il arrive à une estimation qui est de l'ordre de 7 700 000. Copernic, il est encore à peu près sur la même longueur d'onde. Kepler, lui, a déjà une définition qui est différente. Tout à coup, donc en 100 ans à peu près, oui, même pas 100 ans, on passe de 7 millions à 21 millions. Donc, quand même, ça grandit, quoi. OK. Alors, il y a un premier astronome qui utilise pour la première fois la lunette. Je vous passe aussi le détail, 87 millions. Et puis, on arrive à une idée qui était intéressante. On se dit, OK, on arrive aux mesures modernes, et les mesures enfin, de type moderne, dans lesquelles ce qu'on utilise, c'est la parallaxe des planètes. Alors, l'idée est, vous repérez une des planètes, la première qui a été utilisée, c'est Mars, par rapport au Soleil, mais vous la repérez à partir de points très distants, le plus distant possible sur la Terre. Et donc, vous les voyez sous un angle différent, et... OK, c'est une construction géométrique pas trop simple, mais en utilisant le fait qu'on utilise, que donc c'est la parallaxe typiquement, qu'on vise à partir de points différents, on peut, en suivant la manière dont la planète passe devant le Soleil, en fait le problème pour Mars c'est qu'elle était à l'opposé, mais on peut faire un calcul. Et donc le premier calcul, c'est la première une première mesure relativement collective qui double déjà par rapport à celle pas loin de doubler, enfin, donc on arrive à peu près à 130 millions de kilomètres avec Mars. Alors, en fait, l'autre idée qui est intéressante, c'est presque pour vous inciter à la lecture, la mesure qui a donné la valeur qui est restée comme, bon, aujourd'hui avec les satellites, évidemment, on est un peu plus précis, mais fondamentalement, la valeur qui s'est imposée, c'est à peu près 150 millions de kilomètres, en fait 149 millions de kilomètres ils avaient trouvé à l'époque, c'est la première grande aventure scientifique internationale, commandée au départ de l'Observatoire de Paris. Donc, comme je vous disais, il s'agit, là, c'est pas Mars qu'on utilise, qu'on suit, c'est Vénus. Donc, on suit Vénus, et on essaye de voir combien de temps, essentiellement, Vénus met pour traverser le disque solaire. Alors, Jean-Pierre Luminet, qui est un astrophysicien contemporain, a écrit un extraordinaire roman qui décrit cette aventure en montrant effectivement, si vous voulez, des tas d'éléments qui sont typiques de cette grande aventure. Donc, le grand ordonnateur, c'est Lalande, qui à l'époque est le responsable de l'Observatoire de Paris. Et sa grande calculatrice, c'est Reine Lépaute, qui va devenir, je crois, sa femme. Mais elle est l'objet d'une intense rivalité amoureuse à partir des autres participants à l'opération, qui rêvent tous de gloire scientifique pour arriver à reconquérir Reine Lépaute quand ils reviendront. Donc c'est vraiment un roman tout à fait picaresque, dans lequel certains, donc les héros qui sont présentés, sont Chap, l'ancêtre de l'inventeur du télégraphe. Donc, comme quoi, il y a aussi des dynasties qui ont continué. Et le gentil en particulier, si vous voulez, qui a vécu des aventures incroyables, il est allé en Inde. Alors, il y a deux passages de Vénus devant le Soleil. En fait, Vénus passe devant le Soleil avec un intervalle de 8 ans, et ça se produit environ une fois par siècle, quelque chose comme ça. Donc, il ne faut quand même pas rater son coup, hein, si on a envie de faire les mesures. Et les deux rendez-vous, là, en l'occurrence, c'était 1761 et 1769. Et donc, le gentil est envoyé en Inde. Alors, en pleine guerre entre les Français et les Anglais, on se bataille pour savoir qui va dominer Pondichéry. Et de fait, à cause de cette guerre, il rate la première mesure. Qu'à cela ne tienne, dit-il, quand même, c'est pas un voyage facile. Il dit, je vais m'intéresser à des choses qui se produisent là-bas et je ferai ma mesure en 1769. OK. En 1769, il y a un orage et il ne voit rien non plus. Donc, la vie est dure quand même, hein, pour les scientifiques observateurs. Bon, finalement, après des tas d'aventures, il revient. Mais comme il n'avait pas donné de ses nouvelles, on l'avait décrété mort, tous ses biens avaient été répartis en héritage et sa femme était remariée. Donc il y a comme quoi, si vous voulez, quand je dis que c'est vraiment un roman assez picaresque, il y a cet aspect-là. Alors l'autre, il a plutôt la figure, lui, du martyr. Lui est parti en Californie, il a dû affronter des Indiens qui n'étaient pas tout à fait d'accord avec l'idée que son objectif était le même que le leur, donc il y a des aventures de ce côté-là, mais il finit par mourir de la fièvre jaune, donc lui revient pas non plus. Donc ce qui a bien fait les affaires de Lalande, puisqu'évidemment, ses rivaux avaient été éliminés, et c'est lui qui a gagné la timbale et qui a pu épouser Reine l'Épôtre, qui était la grande calculatrice. Alors, en fait, ça aussi, ça a un côté intéressant. En réalité, elle avait probablement tout à fait l'envergure pour être une des grandes astronomes de son époque. Mais le féminisme avait encore, je crois, pas mal de batailles à mener pour arriver vraiment à ce qui est un début d'égalité. Et donc, elle a joué les petites mains, alors que vraiment, au point de vue du calcul, tous les témoignages de l'époque reconnaissent que c'est elle qui était vraiment capable de, en particulier, d'arriver au résultat qui est le Soleil est à 149 millions de kilomètres sur base de combien de temps le petit point que Vénus représente met pour traverser le disque solaire. Autre mesure qui est tout à fait intéressante aussi, donc je vous dis les dimensions, vous avez vu que ça explose. Alors les dimensions, ce n'est pas encore trop grave. Quand je dis c'est pas encore trop grave, ça modifie fondamentalement la vision du monde qu'on peut avoir. Mais je dis c'est pas encore trop grave parce que la Bible n'en dit rien. Il n'y a pas de texte, il n'y a pas de passage de la Bible dans lequel on puisse vous dire, la Lune est à telle distance de la Terre ou les sphères qui sont au-dessus sont à telle distance, donc on n'en dit rien. OK. Vous allez voir qu'évidemment, pour les intervalles temporels, ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, l'autre mesure qui me paraît quand même intéressante aussi et qui est, je trouve, porteuse de bouleversement dans la vision du monde, c'est la vitesse de la lumière. Galilée était le premier à s'être intéressé à cette question. Alors Galilée, il avait imaginé, et de nouveau on peut parfaitement comprendre pourquoi, il avait imaginé une expérience en disant, voilà, je me mets sur une colline, j'envoie un copain sur une autre colline, et j'ai une lanterne. Je cache la lanterne, donc elle est sous un drap, et j'enlève mon drap. Dès que mon copain voit la lumière qui provient de ma lanterne, lui-même a aussi une autre lanterne sous un autre drap, il enlève son drap et moi je revois et je vais mesurer le temps que ça met. Puis évidemment, c'était très naïf comme manière de voir les choses. Et très vite, Galilée lui-même s'est rendu compte que vous le faites avec deux collines qui sont à 1 km de distance ou à 3 km de distance et vous avez évidemment exactement la même réponse. Pourquoi ? Mais parce que ce qu'on mesure, c'est la capacité à lever rapidement un drap et pas du tout le temps de trajet de la lumière. Alors pourquoi pensait-il dans ces termes-là ? Je pense qu'implicitement, de nouveau, ça c'est ma vision personnelle, mais je pense qu'implicitement, Galilée devait avoir en tête des vitesses qui sont de l'ordre de la vitesse du son. Alors pour la vitesse du son, ça marche évidemment bien. Hein ? Quand vous allez devant une belle montagne et que vous faites vous entendez le retour, 5 secondes plus tard, et si la montagne est plus près ou plus loin, vous pouvez parfaitement, évidemment, estimer, si vous connaissez la distance à laquelle se trouve la montagne, la vitesse du son. Donc la connaissance de la vitesse du son était effectivement un grand classique de l'époque, on savait à peu près ça. Et donc lui, probablement, devait avoir en tête, OK, ça va plus vite, mais il n'imaginait pas à quel point plus vite. Alors, la première mesure de la vitesse de la lumière qui donne des résultats tout à fait satisfaisants est une mesure astronomique. Et elle est aussi liée, évidemment. Alors là, j'ai trouvé la reproduction du schéma qui est au départ le schéma d'origine. C'est Rømer, qui est un astronome danois. Donc, Rømer essaye de mesurer la durée de révolution d'un des satellites de Jupiter qui s'appelle Io. Et pour faire cette mesure, il s'intéresse à l'éclipse de Io. Donc Io passe derrière, hein, à un certain moment, Jupiter. Et donc, en mesurant le temps pendant lequel Io est caché par la planète Jupiter, il se dit, je vais arriver à trouver la durée de la période de révolution. Et puis il se rend compte qu'en fait, selon qui fait sa mesure au printemps, en été, en hiver, enfin, il n'a pas les mêmes résultats. Donc ça dépend, donc le temps pendant lequel Io est caché par Jupiter n'est pas le même suivant la situation dans laquelle il se trouve. Alors, il comprend que ce qu'il est en train d'observer avec ces différences de temps, ça c'est dû à la durée du trajet de la lumière. Alors le petit schéma là est assez simple. En fait, on prend deux quarts de Jupiter, si vous voulez, on s'arrange pour que Jupiter soit de nouveau éclairé d'un côté, enfin, pardon, on se place au moment où la Terre est soit sur sa propre orbite, en train de se rapprocher de Jupiter ou en train de s'éloigner de Jupiter. Et évidemment, l'idée, donc le calcul n'est pas du tout compliqué à faire, en tout cas si on ne va pas dans le détail. Si vous vous dites que la Terre tourne dans ce sens-là, donc dans ce sens-ci, comme ça, voilà, quand elle est ici, elle se rapproche. Donc, au début, elle est où j'ai mis la petite main. Ah non, elle n'est plus là. Au début, elle est ici, et puis elle passe là. Donc, si vous voulez, elle passe en G. Donc, au moment où elle passe en G, le trajet pour la lumière venant de Io est plus court qu'au moment où elle part de F. Et c'est juste le contraire si elle continue. De l'autre côté, au moment où l'éclipse commence, on est en L, et puis quand elle s'achève, on est en K. Donc, au contraire, le trajet est allongé. OK. De nouveau, on peut parfaitement estimer de combien, puisqu'à l'époque, on connaît à peu près la distance, à peu près, hein, ce n'est pas encore les mesures tout à fait précises, mais on a une bonne idée quand même, vous l'avez vu, on sait qu'on compte en dizaines de millions de kilomètres pour la distance entre la Terre et le Soleil, et on connaît à peu près la distance de Jupiter, donc on a à peu près une idée de ce que représente chacune des droites qui sont là, et on fait le calcul, et on trouve 212 000 kilomètres par seconde. Donc c'est quand même pas mal, hein. Donc pour une mesure qui est faite dans un contexte où il y a des tas d'incertitudes, 212 000 km par seconde, alors qu'aujourd'hui on sait que c'est à peu près 300 000, c'est une erreur de 25-30%, c'est tout à fait impressionnant. Mais je dis, au point de vue des idées, je pense que ça a dû être vraiment un choc, parce qu'on a tout à coup, si vous voulez, accès, on admet l'idée qu'il y a quelque chose qui se déplace. Donc, c'est pas. Avant, on n'était pas sûr qu'il y avait vraiment quelque chose qui se déplaçait. Mais donc, on vient à l'idée qu'il y a quelque chose qui est en train de se déplacer et qui se déplace à une vitesse qui est 212 000 km par seconde. C'est complètement inimaginable dans la vision de la réalité physique de l'époque. Donc, je trouve que ça fait aussi partie des données qui méritent d'être soulignées au point de vue du bouleversement de la représentation du monde qu'on peut avoir. OK. Donc. Autre élément aussi qui est intéressant, j'ai parlé des grandes distances, maintenant je vais plutôt du côté des petites. Alors les petites, ça c'est un personnage qui est aussi assez sympa, c'est Van Leeuwenhoek, qui est échevin de Delft, drapier, et par ailleurs un autodidacte. Et il a construit, si vous voulez, d'extraordinaires petits microscopes. D'ailleurs, au Carré des sciences, on en a reproduit certains, et ça marche relativement bien. Hein. Donc ce sont des microscopes à une seule lentille. Et en fait, la lentille, c'est une toute petite goutte de verre, mais je dirais d'un ou deux millimètres de diamètre, hein, pas plus grand, qu'on place tout près de l'œil, et on regarde simplement les objets. Alors, on peut évidemment pas regarder tout avec ça, mais par exemple, dans ce que moi j'ai vu comme reconstitution, on peut voir les globules rouges dans le sang. Donc avec cette toute petite gouttelette de verre, qui a évidemment l'avantage, comme elle est toute petite, de présenter un rayon de courbure lui-même très petit, donc qui diffracte très très fort, enfin qui dévie très très fort la lumière et qui amplifie les images. Alors il faut vraiment bien les placer, mais on le voit bien. Et donc qu'est-ce qu'il regarde avec ça? Les globules rouges, il découvre les protozoaires, il découvre les bactéries, la striation transversale, dit-on, des fibres musculaires. Il examine ses propres spermatozoïdes, c'est la première fois qu'on les voit. Donc, il y a vraiment, si vous voulez, là aussi, une ouverture extraordinaire vers le monde microscopique et qui est absolument nouvelle. Personne n'avait jamais vu ce genre de choses avant. Donc, avec l'invention du microscope, et même un tout petit microscope parfaitement artisanal, si vous voulez, on arrive quand même à voir des choses tout à fait étonnantes. Alors, le temps. Alors ça, c'est la dernière chose dont je veux vous parler, parce que quand même, ça a beaucoup d'importance. En fait, le temps, là, on marche sur des œufs. Je vous disais tout à l'heure, quand on parle de la Bible, il n'y a pas de distance. Par contre, des temps, il y a. Et donc, il y avait pas mal de gens qui avaient... Alors moi, je suis tout à fait étonné quand je lis ça. Pas mal de gens qui s'étaient amusés, en prenant le texte de la Bible, à reconstituer la succession temporelle des générations et qui avaient chiffré ça. Et ça marche bien. Kepler avait fait ça. Réponse, la création du monde, Adam et Ève, c'est 3993 ans avant Jésus-Christ. OK. James Usher, archevêque anglican, 4004. Ben, vous voyez que c'est quand même pas énorme quoi, comme différence. Hein? Et il dit même que ça s'est passé le 23 octobre. Alors, en passant, je trouve quand même que ce qui est assez extraordinaire, c'est de se dire que cette estimation-là, j'ai lu ça en me renseignant sur ceci, cette estimation est restée 300 ans dans les éditions de la Bible anglaise autorisée. Alors, Newton lui-même fait ce genre de calcul. Donc, il avait une vision qui était tout à fait inscrite dans le même contexte, dans le même cadre. Donc, ça, c'est Usher. Et Newton, lui, 3998. Je dirais, ah, vous avez des mesures de ce genre-là, vous êtes un bon physicien, vous dites, OK, 3998 plus ou moins 5, l'erreur de mesure n'est pas trop importante, ça va, je prends, hein, j'achète. Ben, en fait, évidemment, c'est une manière dont moi j'ai été étonné en me disant il doit quand même y avoir une grande incertitude dans la manière de chiffrer cette succession de générations dans la Bible, pas du tout, donc on voit que c'est relativement cohérent. Le premier qui a vraiment osé rompre ça, c'est Benoît de Maillet, donc vous voyez que c'est aussi début du 18e, et lui il lâche comme ça brutalement l'idée que ça pourrait être 2 milliards d'années sur base, si vous voulez, de l'émergence des continents. Donc, mais c'est évidemment dans une vision qui est totalement différente. Mais de 4000 ans, on passe à 2 milliards, vous vous rendez compte. Mais lui, il savait à peu près où il mettait les pieds. Et donc, il a publié son œuvre sous un pseudo qui était Téliamet, je crois. Enfin bon, c'était une permutation des lettres de son nom. Comme ça, évidemment, il ne s'exposait pas directement au bûcher. Mais en fait, fondamentalement, celui qui casse vraiment la temporalité biblique, c'est Buffon. Alors Buffon, il est là. Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon. Et donc, lui, si vous voulez... Bon, il n'a pas évidemment tous les procédés de datation qu'on a aujourd'hui, mais fondamentalement, il raisonne. Il raisonne et il se dit donc que, par exemple, il examine la manière dont les sédiments sont déposés par les marées. Il mesure l'épaisseur de sédiments qui peut être déposé et il fait un petit calcul en disant une marée ne peut déposer qu'un 1/12 de l'épaisseur d'une feuille d'ardoise, 5 pouces par an, et donc il faut 14 000 ans pour une colline argineuse de 1000 toises. Une toise, c'est 1,80 m. Alors c'est déjà une solide colline. Et de fait, c'est un calcul qui n'a pas plus de validité, si vous voulez, mais qui est exemplaire. Parce que simplement, brutalement, donc je dis probablement que ce sont 5 pouces par an et que tout est déposé au même rythme n'est pas très correct. Mais tout de suite, si vous voulez, la réponse c'est il faut 14 000 ans. OK, donc par rapport aux 4 000 ans, on est quand même déjà immédiatement au-delà. Alors, il fait aussi autre chose. Il pense à la sphère comme une sphère chauffée. On sait qu'à l'intérieur, ça parce qu'on a commencé déjà à faire des mines, et on sait qu'à l'intérieur il fait plus chaud. Il pense à une sphère qui est en train de se refroidir. Et il extrapole, si vous voulez, ses résultats à partir de la vitesse de refroidissement de sphère. Et là, c'est beaucoup plus fort. Il arrive à 77 000 ans. Mais il se rend compte que quand même, il marche sur des œufs, comme je disais, et il est en train de mettre ses pieds dans des traces un peu dangereuses. Et donc, assez vite, il se rétracte. Et il apparaît-il citer une phrase qui vaut bien le... et pourtant elle tourne pour Simov et de Galilée, il aurait dit « mieux vaut être plat que pendu ». Donc en retirant son estimation de 77 000 ans. Donc, il y a un autre calcul du même genre qui est fait par Halley, celui de la comète, et qui est basé sur une... De nouveau, si vous voulez, c'est un calcul très imprécis, mais son idée, c'est... OK, les océans sont salés. Pourquoi sont-ils salés? Au départ, ils ne l'étaient pas. Il est convaincu que c'est les rivières qui apportent le sel. Alors, ce n'est pas idiot, hein. En fait, l'eau des rivières, effectivement, n'est pas très salée, mais elle l'est un peu. Et donc, il fait une estimation de la quantité d'eau de rivière qui a dû être envoyée dans les océans pour arriver à la salinité qu'il peut mesurer dans les océans. Et donc, ça lui donne, si vous voulez, lui ne chiffre pas. Mais il est convaincu aussi que c'est beaucoup plus que ce qu'on raconte précédemment. Et en fait, le même calcul a été refait par un géologue irlandais, nettement plus tard, et lui, sur base de la salinité, il arrive à quelques millions, enfin quelques dizaines de millions d'années. De toute façon, c'est un calcul qui ne tient pas la route, hein, parce que, si vous voulez, c'est un calcul dans lequel on estime que vraiment c'est un seul phénomène qui est responsable du fait que les océans ont été salés. En réalité, c'est plus compliqué, et il y a des phénomènes qui jouent dans différents sens. Mais de toute façon, ce qui est intéressant, c'est on fait apparaître tout à coup un ordre de grandeur qui n'a rien de commun avec les quelques milliers d'années dont on parlait précédemment. OK. Donc, ce petit passage par Buffon me permet de passer, c'est la dernière chose dont je vais vous parler, de la biologie, où quand même il y a pas mal de choses qui évoluent. Alors, le premier grand nom du 18e en biologie, c'est Linné. Linné, c'est un Suédois, et c'est vraiment un grand classificateur devant l'éternel. Il fait surtout du végétal, de la botanique, et il s'intéresse, si vous voulez, il a un critère qui est les étamines. Donc, si vous voulez, le caractère sexué des plantes. Alors, sur cette base-là, il établit une nomenclature qu'il extrapole au monde animal. Et en fait, sa nomenclature est toujours celle qui est utilisée. Enfin, fondamentalement, elle a survécu. Donc, il y a un substantif pour le genre et un adjectif pour l'espèce. J'en ai repris quelques-uns. Felis domesticus, c'est le chat. Felis tigris, c'est le tigre, etc., etc. Alors, Buffon n'est pas du tout d'accord avec Linné. Alors, quand même, si vous voulez, Linné est tout à fait fixiste, créationniste, et est fondamentalement convaincu que toutes les espèces ont été créées en une fois. Alors, de nouveau, je vais jouer l'avocat du diable en essayant quand même que vous ne le preniez pas nécessairement pour un idiot, en disant, à l'époque, une prise de position de type, je ne parle pas de sa fidélité à la lettre de la Bible, hein, mais une prise de position de type fixiste était aussi une manière de réagir contre des sottises qui avaient cours. Et donc, par exemple, une des sottises qui avait cours, si vous voulez, c'était l'idée que n'importe quoi pouvait donner n'importe quelle espèce. Et donc, par exemple, enfin, c'est l'idée de la génération spontanée, si vous voulez, hein. Donc, vous avez une moisissure et vous pouvez voir sortir n'importe quel animal de la moisissure. Vous n'avez pas nécessairement besoin qu'il y ait une filiation de type biologique qui ait donné naissance aux petits animaux qu'on trouve dans la moisissure. Donc il y avait même un médecin, je ne sais pas si je l'ai noté là, il y avait même un médecin anglais qui, à la même époque, avait été convaincu qu'une femme avait pu accoucher d'un chat. Donc, pour dire, les connaissances de l'époque étaient vraiment... donc l'idée de dire, non, les espèces, c'est une réalité biologique forte, est quand même une idée qui s'oppose à ces fantaisies qui permettaient de conclure à peu près n'importe quoi. Donc, je dis ça pour un peu dédouaner Linné. Alors, Buffon, lui, fait des relevés qui sont fondamentalement plus riches que ceux de Linné. Donc, il s'intéresse à des tas de critères différents. La vitesse de croissance, l'âge de la maturité reproductrice, la durée de gestation, le nombre de jeunes, etc., etc. Et il est convaincu, lui, qu'il y a des espèces qui ont disparu. Il est aussi convaincu que l'homme est une espèce animale. Là aussi, c'est pas tout à fait anodin de dire ça dans un contexte qui est celui de l'époque. Hein. Alors, par exemple, il y a une citation qui est amusante. Il tient compte, par exemple, il étudie toute une série de propriétés des animaux, mais il ne nie pas l'intervention divine. Donc, c'est pas quelqu'un qui est fondamentalement en train d'affirmer des positions qui vont nécessairement complètement à l'encontre des idées dominantes, mais il les introduit gentiment. Et donc, notamment, par exemple, il dit « D'accord, Dieu existe, mais vous savez, je ne crois pas qu'il se préoccupe vraiment de la manière dont se plie l'aile d'un scarabée. » Il dit « Ça, c'est nous qui étudions. » Donc, c'est une manière de parler aussi. Hein. Donc, OK. Alors, finalement, si vous voulez, il y a des prises de position qui sont relativement intéressantes et Buffon hésite. Il admet, c'est en même temps, donc on part de les espèces existent, la génération spontanée, certainement il n'y croit pas, donc l'idée qu'on puisse faire n'importe quoi, mais il admet l'idée qu'on puisse avoir une certaine forme de transformisme qui apparaisse. Et donc son transformisme, il est discuté à l'époque, discuté aussi en liaison par exemple avec l'étude des embryons qui a été faite par un Suisse à l'époque. L'étude des embryons a été faite par Caspar Friedrich Wolff, qui a vraiment regardé très attentivement la manière dont la vascularisation d'un poulet apparaissait en suivant les œufs. Et donc on voit, si vous voulez, que les vaisseaux se forment et que les embryons ne sont pas des embryons qui sont formés avec tous leurs, simplement plus petits, mais avec tous les organes présents. Donc il y a vraiment, si vous voulez, les débuts de l'embryologie aussi qui caractérisent cette époque. Donc, il y a vraiment des progrès qui sont faits tout à fait de manière importante. Et il y a des phrases de Buffon qui sont intéressantes à relever. Il écrit, par exemple, à un moment donné, donc vous voyez, c'est la citation qu'il a au-dessus, « On n'aurait pas tort de supposer que d'un seul être, la nature a su tirer avec le temps tous les autres êtres organisés. » Donc ça, c'est quand même une ouverture vers l'idée de l'évolution. Alors, elle est évidemment relativement vague encore. Alors, il y a une autre idée que moi j'ai trouvée extraordinaire, c'est celle de Maupertuis, dans laquelle, si vous voulez, lui, il a vraiment une espèce de préfiguration du darwinisme, qui est, quand on le relit, bon, de nouveau, si vous voulez, c'est pas élaboré et construit comme Darwin. Mais il dit, donc, quand je dis vraiment préfiguration du darwinisme, il dit, les espèces se poursuivent et se développent, se reproduisent, pardon, pareil à elles-mêmes, mais on peut imaginer que de temps en temps, il y ait des accidents. Et que l'accident donne lui-même naissance à une nouvelle espèce. Alors ça, si vous voulez, à part que les mécanismes ne sont pas du tout définis, comme idée générale, je trouve que c'est la première introduction de l'idée de base du darwinisme avec la dialectique entre les mutations accidentelles et la sélection naturelle. Donc, de ce point de vue-là, il y a quand même aussi des choses tout à fait extraordinaires qui se développent. La dispute entre Galvani et Volta à propos de la nature des procédés électriques qu'on connaît dans les animaux est aussi intéressante. C'est Volta qui gagne, Volta qui comprend que l'électricité qu'il voit dans les membres de ces grenouilles mortes, c'est la même que celle qu'on voit par ailleurs dans les piles, alors que Galvani croyait que c'était vraiment quelque chose qui était tout à fait différent. OK. En géologie aussi, alors je passe relativement vite, là aussi, si vous voulez, ça contribue à faire exploser les données temporelles, avec des discussions amusantes, notamment une dans laquelle Voltaire intervient. Voltaire, lui, il ne croyait pas que vraiment les fossiles de coquilles qu'on trouvait éventuellement dans les montagnes résultait de phénomènes géologiques compliqués. Lui, il pensait plutôt que c'était des pèlerins qui avaient fait le voyage de Saint-Jacques et qui les avaient déposés là. Mais Buffon, au contraire, lui casse vraiment le tabou et donc écrit « Les couches stratifiées résultent d'une sédimentation sous les eaux qui s'est prolongée pendant des millénaires et pas seulement pendant les 40 jours du déluge. » Ok, donc il y a aussi, si vous voulez, du côté de la géologie, les données s'accumulent pour pousser à la prise en considération d'intervalles de temps beaucoup plus grands. Alors, j'en viens, je ne vais pas être plus long, mais j'en viens à ma conclusion en disant que finalement, il y a encore eu une belle dispute et qui rejoint ce que je voulais. C'est pour boucler par rapport à mon exposé et en finir par où j'avais commencé. En fait, la dernière grosse dispute sur l'âge de la Terre, elle date de la fin du 19e, au moment où vraiment les choses ont bien évolué. Darwin a produit sa théorie de l'évolution et comprend que ce que lui envisage comme les cycles, enfin comme les successions de mutations, de fixation d'espèces, d'apparition de nouvelles espèces, c'est un processus qui a besoin d'un temps énorme par rapport à tout ce dont on parle précédemment. On parle en centaines de millions d'années. Et Darwin a compris ça. Il n'envisage pas que ça puisse se passer autrement. Et à qui est-ce qu'il se heurte, aux physiciens? En fait, à Kelvin. Et pour Kelvin, c'est complètement impossible, essentiellement parce que le Soleil ne peut pas brûler aussi longtemps. Alors évidemment, de ce point de vue-là, et donc là, la dispute a été terrible, hein. Alors évidemment, Kelvin, lui, ce qu'il a en tête, ça n'a évidemment rien à voir avec l'écriture de la Bible. C'est l'état des connaissances dans le monde de la physique de l'époque. Et donc, ce qu'on se dit à l'époque, c'est, ok, on ne connaît pas les réactions nucléaires. Et donc, aujourd'hui, évidemment, on peut dire la lumière et la chaleur qu'on reçoit du Soleil, elle est produite par les réactions nucléaires qui se passent à l'intérieur du Soleil. Mais à l'époque, on n'a pas la moindre idée que ça peut exister, ces réactions nucléaires. Et comme vous savez très certainement, les quantités d'énergie qui sont mises en œuvre dans les réactions chimiques ou dans les réactions mécaniques n'ont rien de commun avec ce qu'on peut avoir à Hiroshima ou Nagasaki. Donc c'est vraiment, là aussi, si vous voulez, en termes de quantité d'énergie, il y a des ordres de grandeur de différence. Et donc, la dispute entre Kelvin et Darwin, elle porte là-dessus. Kelvin dit non, c'est l'âge qui est proposé pour la théorie de l'évolution, ça ne peut pas tenir, parce que le Soleil serait éteint depuis longtemps si on avait dû y envisager des intervalles de ce genre-là. Et donc je dis, c'est intéressant, et ça, je trouve, ça pousse vraiment les physiciens à la modestie, parce que, ici, en l'occurrence, c'est une théorie non mathématisée, qui est la théorie de l'évolution. Mais, attends, quand je dis non mathématisée, c'est vraiment au terme en pensant au concept mathématique. C'est une théorie qui est profondément rationnelle et profondément appuyée sur des données observées et expérimentales, mais elle n'est pas mathématisée, c'est pas une théorie mathématique. Et c'est elle qui, fondamentalement, avait raison par rapport à Kelvin, qui, lui, s'appuyait sur des données construites sur des théories tout à fait mathématisées, mais qui, en l'occurrence, étaient incomplètes par rapport aux données qui étaient en discussion. Donc, je dis simplement, c'est ma conclusion, ça pousse, je trouve, à une forme de modestie par rapport aux théories qui sont éventuellement les plus formalisées. J'espère que je vous ai quand même à peu près montré, en passant comme ça tout en revue très rapidement, à quel point toute cette histoire du XVIIIe siècle est quand même porteuse d'une série d'idées qui ont explosé, je dirais, au XIXe et au XXe, mais qui ont vraiment trouvé leur germe dans cette période-là. Merci.
Je remercie beaucoup Pierre Gillis. Je vous propose immédiatement de poser des questions ou d'intervenir.
Monsieur le professeur, vous aurez beaucoup à me pardonner, non pas parce que j'ai beaucoup péché, mais parce que je suis ignorant. Alors je vais vous raconter une petite anecdote, et vous me direz si cette personne avait raison. C'est-à-dire que j'avais une amie qui n'était pas belge, elle était allemande. Et nous étions en hiver, et il faisait froid, et en rentrant, on avait froid. Et je lui dis, ferme bien les fenêtres. Sur quoi elle me répond, non, c'est l'inverse qu'il faut faire. C'est-à-dire que lorsque l'on rentre et qu'il fait froid dans une maison ou dans une pièce, il faut plutôt ouvrir une fenêtre pendant un court instant, pas très longtemps, parce que les molécules qui sont chargées de chaleur ne se chargeront plus de chaleur, et c'est en laissant entrer de nouvelles qu'on va réchauffer la pièce. Alors ça, c'est la première question, et la seconde question que j'ai à vous poser, c'est le plus-moins avec l'électricité, Newton, et je crois qu'on a découvert en électronique que ce n'est pas le moins qui est attiré, c'est pas le moins qui est attiré par le plus, mais dans les basses tensions et en électronique, c'est exactement l'inverse.
C'est les deux.
Pardon ? Comment ? C'est ça, hein ?
C'est les deux.
C'est les deux, ah bon. Et on a dit, on ne va pas tout changer parce que ce serait beaucoup trop compliqué. Alors voilà les deux questions que j'avais à vous poser. Je vous remercie.
Si vous voulez, ce qui est clair, enfin en tout cas par rapport à l'ouverture de la fenêtre et la température, c'est les molécules de gaz n'ont pas de mémoire. Donc la température plus élevée ou moins élevée est simplement l'indication de l'agitation plus ou moins grande des molécules, mais c'est les mêmes molécules qui peuvent être agitées ou ne pas l'être. Donc, on peut éventuellement se dire que dans certains contextes, pas pour ces raisons-là, mais on peut imaginer que, si vous êtes dans une journée, dans une maison qui a été vraiment isolée, qui est à l'équilibre avec l'air ambiant, donc par exemple en hiver, en moyenne à 5 degrés, et que par hasard ce jour-là, il fait 10 degrés à l'extérieur, ok, alors vous ouvrez et vous allez provoquer un petit réchauffement. Mais l'idée fondamentale, c'est, donc comme vous l'avez exprimé, ça serait imaginer que les molécules ont une mémoire et que une fois qu'elles ont été réchauffées, elles ne peuvent plus l'être. Ça, c'est pas vrai du tout. Les molécules de gaz, elles se déplacent plus ou moins vite et c'est les mêmes molécules qui, une fois qu'elles ont reçu de la chaleur, se recommencent à se déplacer plus vite. Je pense que ça n'avait pas de sens. Et alors pour la deuxième question, en fait, si vous voulez, mais ça, c'est aussi du Newton largement. Donc l'invention de l'électricité, plus ou moins, c'est Benjamin Franklin. Mais une des grandes idées de Newton, c'est les vraies forces. Quand je dis vraies forces, je parle des forces qui caractérisent les interactions au sein de la matière. Les vraies forces existent toujours par paire. Donc si l'objet A interagit avec l'objet B, il l'attire ou il le repousse, peu importe, mais c'est réciproque. Donc si A attire B, B attire A. Donc en fait, la propriété de l'électricité, c'est les charges négatives attirent les charges positives, mais les deux, donc c'est réciproque. Par contre, les charges de même signe se repoussent, mais là aussi c'est réciproque. Donc l'idée que c'est les unes qui attirent les autres, c'est pas comme ça que Newton le présente, et de ce point de vue-là, la manière dont Newton le présentait n'a pas été démentie. C'est toutes les interactions sont toujours des interactions entre objets. Donc, les deux s'attirent ou les deux se repoussent.
Avec l'invention du transistor, il faut que la charge soit positive ou négative, et elle ne peut pas être dans un autre sens que le sens qui est prévu pour que le transistor fonctionne.
Oui, mais ça, c'est les propos. Enfin, je ne vais pas entrer dans le détail, mais si vous voulez, ça, c'est l'utilisation des propriétés cristallines de certaines substances. En l'occurrence, par exemple, typiquement pour les transistors, on a fait ça avec du germanium. Donc, c'est de la physique du solide. Et essentiellement, on s'arrange, si vous voulez, pour que l'attraction. Enfin. Le passage est possible dans un sens. Donc, effectivement, la propriété, je dirais, des diodes ou des transistors, les transistors, c'est deux surfaces placées l'une près de l'autre, cette propriété est telle qu'on s'arrange pour que le courant puisse passer dans un sens et pas dans l'autre. Mais fondamentalement, c'est lié aux propriétés du solide et pas lié aux propriétés des particules en elles-mêmes. Enfin, si ce n'est que les propriétés du solide sont les mêmes fonctions des particules, mais c'est vraiment une propriété des cristaux. Et je dirais même c'est des cristaux construits. Donc pour faire un transistor, il faut une couche fine de porteurs de charge négative, enfin de conduction électrique qui se fait par charge négative, coincé entre deux morceaux plus gros dans lesquels l'électricité, les charges qui se déplacent sont plutôt les charges positives. Mais les deux sont présentes. Je suppose que c'est du chinois.
J'ai simplement quelques réflexions à propos du passage de Vénus devant le Soleil. Tu sais que Jean-Charles Houzeau l'a mesuré aussi.
Oui.
Dans les années, peut-être entre 1878 et 1882, oui. 83, donc une petite centaine d'années après. Donc ce qui montre bien que c'est tous les 100, c'est combien,
oui,
ça peut 100. Se produire.
Et on attend la suivante, la précédente était en 2004,
oui.
Et l'intervalle de 8 ans maintenant ça nous amène en 2012. Donc s'il y en a qui ont envie de le faire, en 2012 il y a encore une chance.
Et à propos de l'introduction de Newton en France avec le soutien de Voltaire, tu n'as pas cité Madame du Châtelet.
Non.
Ah,
oui. Oui,
oui. Bon. Alors, tu as dit aussi qu'on n'exprimait pas en termes mathématiques la géologie. C'est ce que j'ai
compris.
Oui,
moi je pense ça. Oui.
Et la minéralogie.
Non. Alors, minéologie...
Oui, parce que la cristallographie...
C'est ça. Alors, la cristallographie... Mais même, enfin, si vous voulez... Enfin, moi, je suis assez catégorique sur cette idée-là. Je pense qu'il y a toute une série de sciences dans lesquelles, par exemple, on fait des statistiques. Ça, énormément. Alors, évidemment, faire des statistiques, si on veut, ben, c'est évidemment, dans une certaine mesure, faire des maths. Donc, je ne dis pas du tout ça pour les décrier. Mais je dis fondamentalement... Je suis de plus en plus convaincu que la physique est la seule science dans laquelle les objets d'étude sont des objets mathématiques. Une molécule ou un atome n'est pas un objet mathématique. Pour un chimiste, une molécule n'est pas un objet mathématique. Pour un physicien, un champ électrique ou un champ magnétique, c'est d'abord un vecteur. C'est ça que je veux dire.
Et quand tu as montré au début les... La première, je pense qu'il s'agit de la première, première image. Quoi, oui. Il me semble que tu as fait mourir Peiresque avant de naître.
Ah, c'est possible.
Oui, mais c'est assez curieux.
Alors Peiresque, oui, enfin, je pourrais retrouver. Je suis désolé.
D'autres questions? Ou commentaires.
Bon, je les ai assommés.
Je ne crois pas. Je crois plutôt que c'est un univers qu'on a commencé à approcher et qui était bien fourni et qui donne peut-être peu de place pour une discussion plus approfondie. Je remercie encore Pierre Gilly. Je vous invite la semaine prochaine à venir écouter Monique Weiss, qui va parler de la religion à la lumière de la connaissance et de la critique. Et alors, demain, à 19 ou 20 heures, je ne sais plus. 19 heures, Ignacio Ramonet va venir parler de son dernier ouvrage sur les médias et le journalisme.